Je dois avouer que je suis un peu tout chamboulé. Vendredi, dans le groupe WhatsApp de préparation de ce culte, on m'a demandé quel chant je voulais pour après la prédication et j'ai répondu que j'avais pas de chant étant donné que j'avais pas encore de prédication et que mon espoir c'était surtout d'avoir une prédication avant le chant. Donc j'ai préparé tout ça hier, tout ça pour dire qu'il n'y a pas eu de concertation entre la présidence et la prédication. Et ce qui me chamboule, c'est que cette prédication que j'ai faite, quand je prêche, j'ai quand même des idées en tête sur à qui je m'adresse. Et je ne suis plus très sûr de à qui je m'adresse, en fait. J'ai l'impression qu'on peut la relire autrement, ce qui est très étrange, de relire sa propre prédication en s'apercevant qu'elle ne dit pas ce qu'on pensait dire. Mais enfin, bon, bref, je vais arrêter. Vous verrez par vous-même et vous me direz après comment vous la recevez, cette prédication. Si vous êtes familier des réseaux sociaux, vous n'avez pas pu rater ce que je vais vous montrer tout de suite. Il y a eu un petit accident de parcours dans une pratique normalement plutôt bon enfant aux États-Unis qui s'appelle la kiss cam. Est-ce que vous voyez ce que c'est qu'une kiss cam? Oui. Une kiss cam, c'est une caméra qui, dans de grands événements sportifs ou dans des concerts, par exemple, filme des couples pendant quelques secondes, qui donc vont apparaître sur écran géant devant tout le public. Et quand ça tombe sur vous, eh bien, vous êtes supposé embrasser votre partenaire. Sauf qu'au dernier concert de Coldplay, tout s'est pas passé exactement comme prévu. Il n'y a pas de son. Je remets. C'est bon.
C'est une tradition américaine. Lors des matchs, des concerts, la caméra se balade et s'arrête sur des couples censés se faire un bisou. Mercredi soir à Boston, elle jette son dévolu sur ses amoureux, enlacés, profitant tranquillement du concert de Coldplay. Mais lorsqu'ils se rendent compte qu'ils sont filmés, volte-face de madame, monsieur lui plonge la tête la première.
Alors l'histoire, c'est que le monsieur, c'est le PDG d'une grosse entreprise et que la madame, ben, c'est pas sa femme, c'est la directrice des ressources humaines de sa société. Alors comme dit l'adage, un adage d'ailleurs que j'ai entendu de toi, Samuel, un jour, qui m'est resté, pardon, parce que je vois que Samuel est parmi nous ce matin, avec Hilda, bienvenue. Quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier. Elle met plus de temps, mais elle finit toujours par arriver. Et cette histoire d'adultère, en fait, c'est un grand classique dans la Bible. À de nombreuses reprises, on le sait, le peuple d'Israël se retrouve pris dans l'objectif de la kiss cam. Et c'est pas Dieu qui l'enlace. Et ça entraîne toutes sortes de disgrâces. Ils se retrouvent battus par leurs ennemis, ou alors un roi mauvais se met à les dominer, ou la maladie les assaille. Bref, leur vie se complique singulièrement. Parce que, en fait, c'est ce qui se passe quand nous sommes pris en flagrant délit d'adultère. Alors, si notre vie est particulièrement compliqué, peut-être que ce qui suit va nous éclairer davantage qu'on ne le pense. Le texte qu'on va explorer ce matin va offrir deux clés pour relire peut-être notre situation et surtout, évidemment, pour nous ouvrir un chemin pour en sortir. Ce texte, on le trouve dans Genèse 4 et je lirai les versets 1 à 8. Je les afficherai tout à l'heure, mais ça ne vous empêche pas d'ouvrir vos Bibles. Je vais prier avant de lire ce texte. Seigneur, toi, tu connais vraiment le secret de nos cœurs. Tu nous connais au plus profond de nous-mêmes. Tu nous connais sans doute même mieux que nous-mêmes. Et ta parole nous rejoint dans ce que nous sommes, dans ce que nous vivons, dans les réalités de nos vies qui sont parfois complexe. Et nous te remercions pour ça. Et c'est avec cette espérance, qui est une espérance ferme, que nous nous approchons de ta parole. Nous nous attendons à ce qu'elle fasse l'effet que toi tu souhaites qu'elle fasse dans nos vies. Nous savons que pour ceux qui l'écoutent, c'est un travail de restauration que tu effectues, et c'est ce que nous attendons ce matin. C'est avec cette attente que nous ouvrons ta parole aujourd'hui. Au nom de Jésus. Amen. Alors Genèse 4, versets 1 à 8, nous dit ceci. L'homme eut des relations avec Ève, sa femme. Elle fut enceinte et mit au monde Caïn. Elle dit, j'ai produit un homme avec le Seigneur. Elle mit encore au monde Abel, son frère. Abel devint berger de petit bétail et Caïn cultivateur. Après quelque temps, Caïn apporta du fruit de la terre en offrande au Seigneur. Abel lui aussi apporta des premiers-nés de son petit bétail avec leur graisse. Le Seigneur porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn ni sur son offrande. Caïn fut très fâché et il se renfrogna. Le Seigneur dit à Caïn, « Pourquoi es-tu fâché ? Pourquoi es-tu renfrogné ? Si tu agis bien, ne relèveras-tu pas la tête ? Mais si tu n'agis pas bien, le péché est tapis à ta porte et son désir se porte vers toi. À toi de le dominer. » Caïn parla à Abel, son frère. Comme ils étaient en pleine campagne, Caïn se jeta sur Abel, son frère, et le tua. Alors on est là au tout début de l'histoire de l'humanité, et vous connaissez le topo, je pense, sinon je vous le rappelle. Adam et Ève vivaient dans une relation harmonieuse avec Dieu et avec la création, mais à un moment donné, ils ont choisi d'écouter la voix du tentateur plutôt que celle du créateur, et de fait, du coup, la confiance a été rompue entre Dieu et eux. Le péché est entré dans le monde, puisque c'est ça le péché, et il est venu mettre le bazar partout, dans notre relation à Dieu, évidemment, mais aussi dans nos relations les uns avec les autres, dans notre relation avec la création, notre rapport à la création, et même dans la création elle-même. Alors, observer la relation entre Dieu et l'être humain avant la chute, c'est quelque chose qui est intéressant parce que ça nous donne une idée de ce qu'était l'intention première de Dieu, de ce qu'était cette relation telle que voulue par Dieu. Mais ce qui vient ensuite est peut-être plus intéressant encore parce qu'on peut voir quel type de relation Dieu a voulu instaurer avec des créatures qui, cette fois-ci, sont nées et qui vivent dans un monde qui est déjà affecté par le péché, c'est-à-dire un monde comme le nôtre, comme celui dans lequel nous vivons, nous. Et la première chose qu'on peut voir, qu'on peut dire en tout cas, c'est que la simple existence de Caïn et Abel, qui sont nés de l'union d'Adam et Ève, montre déjà, pour commencer, que Dieu n'en a pas fini avec l'humanité. Il a des projets d'avenir pour Adam et Ève, il a des projets d'avenir pour leur descendance. Et de fait, on voit dans ce passage que si la relation entre Dieu et les êtres humains a effectivement changé de nature, on voit bien qu'on n'est plus dans cette relation, où voilà, Adam et Ève évoluaient dans le jardin et Dieu venait à leur rencontre, il y a d'autres choses qui se mettent en place, n'empêche qu'elle existe encore, cette relation, puisque nous voyons ici Caïn et Abel apporter leur offrande à Dieu. Donc ça, c'est déjà une première bonne nouvelle, me semble-t-il. Sauf que pour Caïn, c'est exactement comme pour le monsieur tout à l'heure, tout ne se passe pas exactement comme prévu. Je ne sais pas si vous avez déjà vu Love Actually. Ça vous dit quelque chose, ce film ? Alors, c'est peut-être mon accent anglais qui est terrible. Je ne sais même pas comment définir, c'est une comédie romantique. C'est une comédie romantique, on me souffle dans l'oreillette. Un film de Noël aussi, on peut dire. Oui, aussi. Donc c'est une comédie romantique de Noël, du coup. Et dans ce film, il y a une scène que moi je trouve poignante et particulièrement bien jouée, où on voit, il y a une femme qui s'appelle Karen, qui est jouée par Emma Thompson, qui est excellente dans le rôle. Et cette femme va faire les achats de Noël avec son mari. Et dans le magasin, ils se séparent, chacun va faire des achats de son côté. Et au retour à la maison, Karen donc voit une petite boîte carrée, noire, dépassée de la poche du blouson de son mari. Et elle ne résiste pas, la curiosité est plus forte. Elle ouvre la boîte et elle découvre donc en avance son cadeau de Noël. C'est un superbe collier en or avec un joli pendentif en forme de cœur. Et évidemment, elle est, elle est émue, elle est touchée de ce geste à venir, mais elle est sage, elle remet tout dans la poche de son époux et elle dit rien. Et puis, elle attend Noël. Et Noël arrive. Son mari lui offre son cadeau, effectivement, une petite boîte carrée qu'elle déballe. Elle ouvre la boîte et là, elle découvre un CD. Et elle comprend. Elle comprend que le collier n'était pas pour elle. Ce que son mari avait de meilleur, il l'a gardé pour une autre. Alors pourquoi Dieu n'accepte pas l'offrande de Caïn ? Il y a plusieurs hypothèses à ce sujet, et l'une d'elles, qui tient la route théologiquement, c'est de dire que Dieu n'a pas accepté l'offrande de Caïn parce que ce n'est pas une offrande de sang. Hébreux 9, verset 22, dit que sans effusion de sang, il n'y aura pas de pardon, il n'y a pas de pardon. Lévitique 17, 11 dit aussi que c'est par le sang qu'on fait l'expiation. Autrement dit, pour qu'il y ait pardon des péchés, il faut que quelqu'un meure parce que le salaire du péché, c'est la mort. Il faut donc qu'un innocent prenne ce péché sur lui pour que le coupable lui soit pardonné. Mais il y a une autre hypothèse à ce sujet, et l'une ne chasse pas l'autre, je pense, hein. Une autre hypothèse qui se base sur les textes du Nouveau Testament qui viennent éclairer ce passage, on en a deux, il y a 1 Jean 3,12 qui dit « Que personne ne suive donc l'exemple de Caïn qui appartenait au diable et qui a égorgé son frère. Et pourquoi l'a-t-il égorgé ? Parce que sa façon d'agir était mauvaise, alors que celle de son frère était juste. » Alors l'auteur de l'Épître ici ne parle pas directement de l'offrande de Caïn, par contre il dit deux choses qui semblent remonter même en amont de cette histoire d'offrande. Premièrement, Caïn appartenait au diable, et deuxièmement, sa manière d'agir était mauvaise. On nous invite donc ici à considérer l'attitude de cœur de Caïn. C'est là que se situe la racine du mal, la racine du problème. C'est le cas pour nous aussi, c'est dans notre cœur que ça se passe. Et puis, il y a un autre texte qui, lui, pour le coup, parle directement de cette question d'offrande et qui, je crois, va dans le même sens. C'est Hébreux 11, verset 4, où il nous est dit « Par la foi, Abel a offert à Dieu un sacrifice meilleur que celui de Caïn. Grâce à elle, c'est-à-dire grâce à la foi, il a été déclaré juste par Dieu. » Donc là, on voit que ce qui fait fondamentalement la différence entre l'offrande d'Abel et l'offrande de Caïn, c'est la foi. Et deux versets plus loin, dans Hébreux 11, toujours, on lit « Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. » Alors, je me suis demandé si on retrouvait une trace de cette différence là dans le texte lui-même. Et ce qu'on observe en tout cas, quand on regarde le texte un peu dans le détail, c'est qu'il n'y a pas un parallélisme strict dans leurs offrandes. Il nous est dit que Caïn offre du fruit de la terre. Et un strict parallélisme, ça serait de dire que Abel offre donc du bétail. Mais le texte va un peu plus loin sur l'offrande d'Abel. Il précise, il dit qu'il offre les premiers-nés de son petit bétail avec leur graisse. Autrement dit, Abel offre la première part, les premiers-nés, et il offre aussi la meilleure part avec la graisse. C'est la meilleure part. Si vous aimez la viande, vous le savez. Abel, on pourrait dire, a offert le collier en or avec son cœur en pendentif à Dieu. Mais quand Dieu a ouvert le cadeau de Caïn, ben, il y avait un CD. Il y avait un CD. Alors on pourrait se dire, ben, c'est quand même mieux que rien. Il ne vient pas les mains vides. Il vient avec une offrande, après tout. On pourrait se dire ça. Mais dans Love Actually, il y a cette scène déchirante d'Emma Thompson qui prend prétexte pour sortir de la pièce après avoir reçu son cadeau, sortir de la pièce où la fête de Noël bat son plein avec son mari, ses enfants. Et elle part dans la chambre, et puis elle regarde les photos de son mari, de ses enfants, les photos de la vie de famille, et elle sait que tout ça, c'est terminé en fait. Alors elle tente de retenir ses larmes, elle n'y parvient pas, puis finalement elle se reprend, elle revient au milieu de la fête, et pour ne pas la gâcher, elle fait comme si rien ne s'était passé. Mais nous, on est spectateurs de cette scène et on sait que son cœur est déchiré. Évidemment, ce n'est pas à cause du CD, c'est à cause de tout ce que ce CD veut dire. Veut dire de gâchis, veut dire de destruction de ce qui a été bâti, de destruction de la confiance, destruction de la famille. On n'est pas obligé de faire une offrande à Dieu. Caïn n'était pas obligé de faire une offrande à Dieu. On n'est pas obligé d'entrer en alliance avec Dieu. Mais si on décide de le faire, on devient l'épouse de Christ. C'est ce qu'est l'Église, l'épouse de Christ. Et aucun conjoint n'accepterait ici-bas d'être le second couteau de son époux. Et a priori, Dieu non plus. En fait, on voit clairement qu'il ne l'accepte pas. La Bible nous dit à de multiples reprises que notre Dieu est un Dieu jaloux. Et ce n'est pas que dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau, par exemple, on voit Ananias et Saphira être foudroyés sur place parce qu'ils ont reproduit cette duplicité de cœur de Caïn. Ils ont vendu leur champ, mais au lieu de garder le produit de la vente pour eux, comme ils auraient pu le faire, et le texte nous le dit aussi, ils auraient pu garder le produit de la vente pour eux sans problème, ils ont pris une autre voie, ils ont décidé de faire croire qu'ils en faisaient l'offrande. Sauf qu'ils ont gardé pour eux la meilleure part. En Apocalypse 3, versets 15 et 16, Dieu dit quelque chose d'intéressant, mais qui m'a toujours surpris au fond. Il dit « Je connais ta conduite et je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. » Et il dit « Ah, si seulement tu étais froid ou bouillant, mais puisque tu es tiède, puisque tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. » Et je trouve que ce sont des versets surprenants, ils sont adressés à l'église de Laodicée, et le reproche qui est fait à cette église, c'est justement cette histoire de duplicité, c'est qu'elle ne refuse pas clairement l'enseignement gnostique, entendez par là ésotérique, d'un groupe qui s'appelle les Nicolaïtes. Autrement dit, cette église, elle navigue entre Dieu et le monde, entre Dieu et une idole païenne. Puisque tu n'es ni froid ni bouillant. Moi, ces mots m'étonnent. Parce que ce qu'il dit, c'est que Dieu préférerait encore qu'il soit froid plutôt que tiède. Plutôt froid que tiède. Parce qu'un froid comme Paul de Tarse, par exemple, opposant farouche des chrétiens, persécuteur des chrétiens quand il était pharisien, vous lui mettez une grosse tarte dans la figure sur le chemin de Damas, du genre à le rendre aveugle pendant 3 jours, et vous le retournez comme une crêpe, il passe de froid à bouillant d'un coup. Mais un tiède, qu'est-ce que vous voulez faire d'un tiède ? Théodore Monod, qui est un protestant qui a eu sa part dans mon chemin de vie, disons, disait à propos de lui-même la médiocrité bourgeoise en tout. Il craignait sa propre tiédeur. Et pourtant, c'est un homme qui ne manquait pas d'audace. C'est un gars qui a traversé le désert en long, en large, en travers. La dernière fois qu'il est monté à dos de chameau, il avait 92 ans. Enfin, bon, c'est pas quelqu'un qui restait a priori assis sur son canapé. Et pourtant, théologiquement, sans doute qu'il avait raison de craindre sa tiédeur, lui qui disait que si Jésus savait ce qu'on avait fait de lui, il se retournerait dans sa tombe. Alors vous voyez qu'a priori, il y avait encore du chemin à faire le concernant. Dieu nous invite effectivement à nous positionner clairement. Que ton oui soit oui, que ton non soit non, tout le reste vient du malin. Pour le dire autrement, un pied dedans, un pied dehors, ça ne fonctionne pas. Alors il y a quand même un espoir pour les Caïns de ce monde, et c'est celui-là, c'est que Dieu n'a pas abandonné Caïn. On l'a vu, Caïn se met en colère, et le texte nous dit qu'il fut très fâché et qu'il se renfrogna. On n'aime pas beaucoup être repris. En général, ça ne nous plaît pas beaucoup. On n'aime pas que quelqu'un nous fasse miroir et renvoie la vérité sur notre péché. Alors Caïn est fâché. Mais si Dieu n'a pas accepté son offrande, ça n'est pas parce qu'il ne l'aime pas. Je dirais même que c'est l'inverse. La vérité vous rendra libre, dit Jésus. Caïn avait besoin, comme nous tous, comme tout le monde en fait, il avait besoin d'entendre la vérité sur son offrande parce qu'elle disait quelque chose de l'état de son cœur. Par contre, effectivement, cette vérité, une fois qu'elle est dite, elle nous place à un virage, il y a un combat à mener. Pourquoi es-tu fâché ? Pourquoi es-tu renfrogné ? Si tu agis bien, ne relèveras-tu pas la tête ? Mais si tu n'agis pas bien, Le péché est tapis à ta porte et son désir se porte vers toi. À toi de le dominer, dit Dieu. Pourquoi es-tu fâché ? Dieu sait très bien pourquoi Caïn est fâché. S'il pose la question, ce n'est pas pour être informé. Il le sait, Dieu, pourquoi Caïn est fâché. S'il pose la question, c'est pour que Caïn se la pose à lui-même, qu'il fasse cet exercice d'introspection, qu'il aille chercher en lui-même la racine de cette colère qui n'est pas une colère juste. Le péché rôde tel un lion rugissant, cherchant à dévorer sa proie, et Dieu dit « à toi de le dominer ». Ça aussi, je trouve que c'est intéressant, parce que vous avez bien entendu, Dieu dit à Caïn « c'est à toi de dominer ton péché ». S'il y a bien une chose que nous montre l'Ancien Testament, c'est que c'est peine perdue, en fait. On ne peut pas dominer le péché par nos propres forces. Alors peut-être que si Caïn avait essayé, il s'en serait rendu compte et qu'il s'en serait remis à Dieu et à sa grâce, je ne sais pas, l'histoire ne nous le dit pas. N'empêche que Dieu met sur Caïn cette responsabilité de dominer ce péché qui est tapis à sa porte. Et pourquoi j'insiste là-dessus ? Parce que je crois que souvent, on tente de remettre cette responsabilité sur les épaules de Dieu lui-même. Seigneur, délivre-moi de cette colère injuste. Seigneur, enlève de moi ce péché. Et puis après, on attend. On reste dans une posture passive, en attendant que Dieu agisse. Et quand Dieu n'agit pas, on se frustre et on se met en colère contre lui. Je t'ai prié, Seigneur. Je t'ai loué, Seigneur. Je vais à l'église tous les dimanches, Seigneur. Est-ce que tu n'acceptes pas mon offrande ? Et on rejoue cette scène de Caïn avec Dieu. Et Dieu nous redit, le péché est tapis à ta porte, à toi de le dominer. Et tu n'as pas les ressources pour ça. Mais ce péché, il a été porté par Jésus-Christ à la croix. Et son instigateur, Satan, a été vaincu. Ce qui signifie deux choses pour nous. La première, c'est qu'en Jésus-Christ, il n'y a plus de condamnation. Dieu ne te condamne pas si tu es en Jésus-Christ parce que Jésus a payé le prix pour toi. C'est pour ça que Jésus dit à la femme adultère, va et ne pêche plus. Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. Mais comment ? Eh bien, en Jésus-Christ, ce péché n'a plus aucun droit sur toi. Ça ne veut pas dire qu'il n'a plus aucun effet, mais il n'a plus aucun droit. Celui qui a vaincu Satan, Jésus, vit en toi par son Esprit Saint. Par tes propres forces, tu ne peux rien faire, mais ce n'est pas par tes forces que tu combats quand tu es en Jésus-Christ. C'est par les forces du Christ. C'est par sa puissance à lui, sa puissance de résurrection, parce qu'il t'a délégué son autorité pour pouvoir vaincre ce péché. Alors maintenant, à toi de dominer ce péché. Alors, l'akiskam, celle qui met le doigt là où ça fait mal, ce n'est pas une malédiction. Dieu qui refuse ton offrande, ça n'est pas une malédiction. C'est un moment de vérité. C'est un moment d'exposition publique où le cœur, soudain, n'a plus rien à cacher parce que tout a été dévoilé. La parole de Dieu, ce matin, braque l'objectif sur nos cœurs et elle pose une question toute simple. Qui enlaces-tu en secret ? Qui enlaces-tu en secret ? Dieu n'est pas intéressé par les apparences. Il ne se contente pas d'une foi présentable, bien présentée. Dieu veut ton cœur. Il ne veut pas la moitié de ton cœur avec l'autre moitié qui regarde ailleurs. Il ne veut pas un cœur tiède, plutôt un cœur froid que tiède, parce qu'il saura mieux quoi en faire. Et si ce matin, tu entends cette parole comme une mise à nu, comprends qu'elle ne vient pas pour t'écraser. Elle vient, comme pour Caïn, t'interpeller avant que ton aigreur ne se retourne contre ton frère d'abord et contre toi ensuite. Et si nous sommes trop confortables, engoncés dans les canapés moites de notre tiédeur spirituelle, alors Dieu nous appelle aussi à nous lever, à reprendre le combat et à dominer le péché qui est tapis à notre porte. Or justement, il ne nous laisse pas seuls pour ça, il met à notre disposition ce qu'il faut pour que nous puissions relever la tête. Et je le répète parce que je l'ai déjà dit à maintes reprises ici même, si tu as besoin d'aide pour mener ce combat, parce que tu ne sais pas comment t'y prendre, et on a le droit de ne pas savoir comment s'y prendre, ou parce que rien de ce que tu as entrepris jusqu'à présent n'a porté de fruits, nous avons dans cette église une équipe prête à t'accompagner. Il s'agit d'un rendez-vous unique, court, confidentiel évidemment, dont le but n'est ni de te juger, ni de te donner des leçons de morale, encore moins de te condamner puisque Dieu lui-même ne te condamne pas, mais simplement de remettre dans tes mains les armes dont tu as besoin pour livrer ce combat. Alors, si tu sais dans ton cœur là, que ce message était pour toi, j'ai envie de dire n'attends pas, parce que d'expérience, je sais que ceux qui attendent ne viennent pas. Ils ne viennent pas parce que l'ennemi prend plaisir à arracher ce qui a été semé. C'est bien, de temps en temps, de réagir à chaud à ce qui est dit, à ce qu'on entend, à ce que Dieu nous dit. Ne sois pas de ceux qui ne viennent pas. Toi, à la fin du culte, approche-toi simplement de l'une des personnes de l'équipe d'accompagnement et je vais leur demander de se lever, ces personnes-là, s'il vous plaît, donc ceux qui font des accompagnements parmi nous dans l'église, pour que vous puissiez simplement repérer ceux qui ne sont pas loin de vous, voilà, et demander un rendez-vous, tout simplement. Demander un rendez-vous. Je ne crains pas de dire que ce sont des rendez-vous qui, par la grâce de Dieu, changent des vies. Précisément parce que nous y cherchons ensemble la face du Dieu vivant et que c'est lui, en vrai, le grand libérateur de son peuple. Alors à lui soit la gloire. Je vais prier, puis nous prendrons un chant ensuite, si l'équipe de louanges veut commencer à s'approcher. Seigneur, je veux d'abord te remercier pour ta présence dans nos vies et te demander pardon pour les moments où peut-être nous naviguons un peu entre deux eaux, un pied dedans, un pied dehors, et nous sommes de ces tièdes que tu vomis de ta bouche, Seigneur. Nous voulons pas être tièdes, nous voulons être bouillants en toi, nous voulons nous rapprocher de toi. Parfois nous sommes fatigués parce que nous luttons depuis longtemps contre un péché dans notre vie et puis peut-être qu'on se tourne vers toi en se demandant ce que tu fais et pourquoi on n'en est pas délivré. Et toi tu nous dis à toi de dominer ce péché et on s'en sent incapable, on s'en sent impuissant. Parce qu'on lutte avec nos propres forces, en fait, et qu'effectivement, par nos propres forces, c'est impossible. Seigneur, nous en appelons à toi ce matin, et je te prie en particulier d'atteindre au plus profond d'elles-mêmes les personnes qui ont entendu ta voix ce matin, pour qu'elles puissent oser faire un pas de plus, un pas plus loin, et effectivement se faire accompagner. Nous voulons te voir agir, Seigneur, et nous savons que ton action, elle passe par notre foi mise en œuvre. Et le premier pas de foi, c'est celui-là. C'est d'amener à la lumière ce qui est dans les ténèbres avant que la grande qui se calme de nos vies ne dévoile tout au grand jour. Nous voulons le faire nous-mêmes parce que nous voulons marcher dans ta vérité. Je te remets aussi tous les cas de nos vies, peut-être nous-mêmes si nous en sommes un, peut-être que nous sommes nous-mêmes froids, Seigneur. Et il y a un espoir, un grand espoir pour ceux qui sont froids. Parce que tu es capable de retourner cette froideur en quelque chose de bouillant. On l'a vu notamment avec Paul de Tarse, Seigneur, que tu es allé chercher et qui est passé du tout au tout. Toi, tu peux faire ce miracle-là dans la vie des personnes qui nous entourent. Et c'est ce que nous te demandons ce matin. Nous nous réjouissons de savoir que ça a existé dans l'histoire du monde, non seulement avec Paul, mais avec plein d'autres personnes. Beaucoup de gens peuvent témoigner de ça dans leur propre vie. Et c'est ce que nous te demandons dans la vie de ceux qui nous paraissent tellement loin qu'ils nous semblent inaccessibles, tellement loin qu'ils nous font peur. eh bien, touche-les, Seigneur, et ramène-les à toi. C'est au nom de Jésus que nous te prions. Amen.
Cet amour.
De ta voix, tu nous appelles à la croix.